Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Alors, aujourd'hui, nous allons parler du nucléaire avec deux invités, Didier Latorre, qui est membre d'Arrêt du nucléaire 34, qui fait partie du collectif Arrêt du nucléaire et de la coordination nationale antinucléaire, et Bruno Charréron, ingénieur en génie énergétique pardon, et nucléaire, qui est membre de la CRIRAD, dont il a dirigé le laboratoire pendant plus de 30 ans. Et il est l'auteur de l'ouvrage « Le nucléaire, une énergie vraiment sans danger », avec un point d'interrogation, bien sûr, et donc qui viendra présenter son livre. Il viendra présenter son livre qui est édité chez Dunod bientôt à Montpellier. Donc, Didier, bonjour.
Bonjour.
Alors, au niveau local, vous poursuivez-vous un travail qui est mené depuis longtemps sur les problèmes de nucléaire, hein, et ce travail se poursuit sur Malvézy, bien sûr, et sur les anciennes mines d'uranium en priorité dans le local.
Au local, oui. Ce sont les installations les plus proches de chez nous, à la fois la porte d'entrée du nucléaire en France, l'usine de Malvézy à Narbonne, et les anciennes mines d'uranium qui posent toujours des problèmes, puisque le nouveau problème qui est posé, c'est qu'il y a maintenant un périmètre de recherche de lithium qui va passer dans certains endroits où il y a des anciennes mines sous le sol. Donc on est face à une nouvelle problématique de dangerosité environnementale. Voilà. Et puis, on mène aussi un travail...
Et puis, il y a aussi les problèmes, enfin, comme on en avait un peu parlé, que ces mines sont simplement protégées... Enfin, ces bassins à ciel ouvert sont simplement protégés par des fausses digues. Et on craint aussi que les intempéries mettent aussi du dégât, enfin, fassent aussi des dégâts, peut-être.
Donc là, on revient sur Narbonne, hein, sur oui. L'usine de Malvézy. En fait, ce sont des bassins à ciel ouvert. Voilà. Donc, ils ne sont pas vraiment protégés par rapport aux embruns, par rapport au vent. Et là, il y a eu des épisodes d'inondations très importants. Les bassins n'ont pas permis de tout retenir. Et l'usine a rejeté des eaux. Des eaux qui sont en partie déjà contaminées, puisqu'ils ont déjà lessivé les sols. Voilà, donc oui, on est confronté en permanence à des épisodes de pollution... de pollution dangereuse, à la fois radiologique, à la fois chimique.
Alors, sur les anciennes mines d'uranium, vous évoquiez bien sûr le projet de la mine de lithium. Sachez que nous avons fait une émission sur ce sujet, sur le projet de la mine. Malheureusement, on a eu des informations au moment où on a reparlé du projet, mais aujourd'hui, on n'arrive plus à en avoir. Hein.
On espère qu'il va y en avoir, puisque nous, on essaie d'organiser une conférence sur ce thème pour mettre justement en phase l'implication des recherches de lithium sur d'anciennes terres minières d'uranium. Hein. Donc voilà, une problématique dont on espère qu'on va pouvoir en parler bientôt.
Et vous pensez que ça pose quel type de problème ?
Ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que quand on fait des recherches et qu'on va toucher des sols sur lesquels il y a des anciennes mines et de l'uranium qui est encore à fleur de roche, bien sûr, il y a un danger. De toute façon, ces anciennes mines en cœur d'Hérault posent des problèmes, on pourrait dire en permanence, puisqu'en cas d'inondation, l'eau remonte et il y a une installation qui est censée pomper l'eau afin d'en extraire l'uranium pour le remettre dans le circuit et pas qu'il soit déversé dans la vallée, comme ça a déjà été le cas à plusieurs reprises.
Alors, vous savez qu'on parle beaucoup de cette question, sans doute, sur le plan local, mais qu'au niveau national, on évoque rarement ces problèmes-là.
Ah bah oui, je sais, oui. Bah de toute façon, on parle très peu des inconvénients dus au nucléaire. On fait beaucoup d'effets d'annonce sur une relance et sur le fait que le nucléaire assérait notre indépendance, ce qui est faux au départ, puisque plus aucun uranium n'est extrait en France. Mais par contre, il n'y a plus d'uranium extrait en France, mais il reste des anciennes mines dont il faut gérer des déchets qui sont là pour des milliers d'années.
Très bien. Donc, alors, cette année, justement, puisqu'on parlait de problèmes sur des milliers d'années, des problèmes du nucléaire, on fête justement cette année deux anniversaires catastrophiques, puisque c'est les 15 ans de Fukushima, c'est les 40 ans de Tchernobyl. On rappelle Fukushima, donc, victime d'un tsunami, des réacteurs noyés, voilà, qui se sont emballés, et puis Tchernobyl, bien sûr, une explosion et un réacteur toujours en activité avec malheureusement aussi un sarcophage qui fuit partout.
Bah et Fukushima, il faut dire qu'il y a eu trois explosions. Hein. C'est pas seulement voilà, c'est trois accidents nucléaires en fait. Hein. Donc et, bah, ces accidents pour nous en fait, ils sont c'est important de revenir dessus pour expliquer déjà que la catastrophe est toujours en cours. C'est-à-dire qu'à Fukushima, à l'heure où on parle, il y a 300 tonnes d'eau qui sont utilisées chaque jour depuis maintenant 15 ans et qui sont désormais, depuis 2 ou 3 ans, rejetées dans l'océan Pacifique. Bon, c'est toujours des populations, un certain nombre de gens qui ne veulent pas revenir sur des territoires contaminés, alors que le gouvernement japonais a mis fin aux aides que recevaient ces gens, puisque, soi-disant, maintenant, ils sont censés pouvoir revenir. Mais il y a des gens qui ne veulent pas faire courir ces risques à leur famille ni à leurs enfants.
Et donc, le gouvernement japonais dit souvent que c'est psychologique.
Oui, bon, ça, c'est... Oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. C'est... Voilà. Et bon, sur Tchernobyl, la problématique, elle est un peu identique. En fait, il y a la fusion d'un cœur qui est toujours en cours, mais qui est protégé par du béton, par en dessous d'ailleurs, pour éviter de rejoindre les nappes phréatiques. Et il y a ce sarcophage qui est censé protéger et qui a été endommagé par un drone russe. Il y a eu une inflammation et donc du coup, ce sarcophage est endommagé. Il faut intervenir, il faudrait le réparer. Donc bien sûr, il y a une inquiétude qui est liée de toute façon à toutes les installations civiles, notamment en Ukraine, puisqu'on voit que la centrale de Zaporijjia est également menacée. Donc on est maintenant face à une problématique dont on parlait pas tellement il y a quelques années avant la guerre en Ukraine, qui est le danger des installations du nucléaire civil. En cas de guerre, en cas de bombardement, une installation du nucléaire civil devient une bombe atomique, en fait. Voilà. Et on en a beaucoup en France, hein, des réacteurs nucléaires. Voilà, donc,
c'est... Alors, donc, sur l'Ukraine, merci d'avoir rappelé que Tchernobyl, effectivement, est en Ukraine. Qu'aujourd'hui, à cause de la guerre, on a des menaces permanentes. Qui d'ailleurs... Alors, quel est le rôle de l'AISN là-dedans, enfin, de l'agence de l'agence du nucléaire, pardon,
de l'AIE, oui. C'est l'ASNR maintenant. Alors bon, il y a en France, c'est l'ASNR. Son rôle, c'est quand même...
Ils y sont allés, ils disent que à Zaporijjia, il y a par exemple...
Il ne faut pas demander à un antinucléaire quel est le rôle de l'ASNR. Hein. Je veux dire, je veux bien, on ne va pas... polémiquer, malgré qu'il y ait des gens formés très compétents à l'ASNR, mais c'est quand même en grande partie relativement un organisme lié à l'État. Donc, ils ne peuvent pas faire de critiques non plus trop virulentes.
Non, mais je reviens à l'Ukraine. Est-ce que vous croyez que les informations qu'on a sur l'Ukraine sont des informations fiables ? Je leur poserai bien sûr la question à M. Charéron, mais est-ce que vous pensez que ces informations, on peut leur faire un peu confiance, quoi ?
Disons que quand par exemple l'Agence internationale de l'énergie atomique, hein, qui est un organisme donc international, comme son nom l'indique, souligne qu'il y a un risque d'une réelle catastrophe nucléaire mettant en danger la santé publique et l'environnement en Ukraine, et qui juge la situation intenable, on peut lui faire confiance, du coup, pour comprendre qu'il y a un réel danger et qu'on n'est plus en train de rigoler. Là. Justement, là, ce n'est pas des antinucléaires qui disent « attention, il y a un danger ». C'est l'organisme international. Donc, on a un peu envie de l'écouter.
Alors justement, revenons un petit peu à la France. Hein. On sait que le plan nucléaire civil a été relancé par Emmanuel Macron. Alors, il rencontre des tas de problèmes. Hein. Problèmes financiers, problèmes techniques, problèmes climatiques. En deux mots, comment vous les aviez bien sûr identifiés, vous travaillez dessus, je suppose, en tant que collectif. Hein. Est-ce qu'on pourrait... C'est difficile, toujours, les problèmes du nucléaire sont toujours extrêmement complexes, hein, mais est-ce qu'on pourrait les résumer en quelques mots, les problèmes que rencontre le lancement d'une nouvelle filière, en fait ?
Bon, les résumer en quelques mots, non, c'est pas possible. Mais déjà, je reviens sur le terme lancement d'une nouvelle filière. On lance pas une nouvelle filière, en fait. Il n'y a pas de nouveauté dans la construction, y compris des EPR. Il y a simplement une sécurité un petit peu relevée par rapport à des épaisseurs de béton en cas d'accident. C'est tout.
Et digues aussi.
Mais en gros, ce sont les mêmes réacteurs, ce sont les mêmes technologies. Et on voit bien, alors que l'EPR accuse 12 ou 13 ans de retard, il ne fonctionne toujours pas.
Et des milliards. Hein.
Et des milliards, oui, 12 milliards de plus. Je crois c'était prévu à 3 milliards. On est à, je ne sais plus, à 23 milliards. On est à 3 milliards, donc c'est plus de 7 fois. Donc, mais d'un pur point de vue industriel, c'est très compliqué de construire des installations nucléaires, encore plus qu'avant, parce qu'il y a eu des accidents et donc il faut essayer de s'en prémunir. Donc, et puis, il se trouve que l'industrie française est bien malade. Donc, quasiment, l'industrie française n'est plus tellement en capacité de fabriquer des réacteurs, encore moins des réacteurs qui soient fiables, puisqu'ils ne l'ont jamais été. Et en plus, là, par rapport à la crise climatique, il faudrait les faire tellement vite que non. Franchement, ce n'est pas la réponse. On a quelques années pour réagir par rapport à la crise climatique. Chaque année qui passe est une année perdue et on voit qu'on en perd. Et il faudrait répondre à 5 ans, à 10 ans maximum. Or, mettre au point une centrale nucléaire, on voit bien avec l'EPR que c'est 10, 15, 20 ans.
Alors donc, là, vous venez d'aborder essentiellement des problèmes presque techniques, hein, mais parlons aussi des problèmes financiers parce que finalement, c'est toujours encore les Français qui payent le nucléaire. On continue à payer très très.
Alors ça, c'est pas nouveau, ça a toujours été le cas, parce qu'en fait, l'industrie nucléaire n'est pas une industrie rentable. C'est y compris toutes les recherches qui ont été faites par le CEA avant de lancer les premiers réacteurs ont été faites sur les impôts des Français, quoi. Donc c'est une réalité. Ça serait, je pense que ce serait peut-être assez intelligent de se dire maintenant, on a quand même beaucoup dépensé avec le nucléaire, d'autant que c'est pas fini, il faut gérer les déchets maintenant, il faut, en espérant ne pas avoir à gérer d'accidents en France, dans la vallée du Rhône, quand même, c'est une zone particulièrement dense. Il y a, je ne sais plus combien de réacteurs, mais c'est considérable. S'il y avait un accident dans la vallée du Rhône, ce serait financièrement une véritable catastrophe.
Alors, justement, je vais rebondir un peu sur ce que vous venez de dire. Donc, on voit que le nucléaire est surtout dangereux. Donc, Bruno Charréron est avec nous au téléphone. Il vient de sortir un nouveau livre, « Le nucléaire, une énergie vraiment sans danger ?» point d'interrogation. Donc, j'ai du nom, je l'ai dit tout à l'heure. Alors, bonjour Bruno Charréron.
Bonjour.
Je laisse le rapporteur de l'Assemblée nationale vous présenter lors de votre dernière audition. C'est tellement long, votre CV, que je l'ai laissé faire. Allons-y.
Monsieur Charréron, bienvenue à l'Assemblée nationale. Vous êtes conseiller scientifique de la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité, c'est-à-dire donc le CRIRAD, ou la CRIRAD plutôt. Après des études d'ingénieur en physique nucléaire et en physique des particules, vous avez travaillé pour EDF, puis vous avez été brièvement en poste à l'ambassade de France, à Dublin, en Irlande. Mais surtout, et ce qui nous intéresse, c'est que cela fait plus de 30 ans maintenant que vous travaillez au sein de la CRIRAD. Vous avez été le directeur de son laboratoire et dont vous êtes aujourd'hui toujours encore le conseiller scientifique. Je signale que vous avez obtenu, notamment en 2016, le prix Nuclear Free Future Award dans la catégorie éducation, en raison de votre engagement constant à mettre en lumière la désinformation pratiquée par l'industrie nucléaire et à améliorer la prise de conscience du public en France et dans le monde. Je pense que ça se passe de commentaires, en tout cas sur le titre. La désinformation pratiquée par l'industrie nucléaire. Je précise également, avant de vous donner la parole, que la CRIRAD a travaillé depuis plusieurs années sur l'impact des essais polynésiens en procédant à l'analyse critique des documents, notamment entre 1996 et 2016, et en ayant procédé à des missions de mesure et des prélèvements sur le terrain en 2005 puis en 2012 sur des secteurs qui nous intéressent particulièrement puisqu'ils ont été touchés par les activités militaires, que ce soit sur la base arrière de Rao, sur l'atoll de Turea ou sur les îles Gambier. Et je crois que malheureusement, mais vous allez nous le dire, vous n'avez pas eu l'autorisation d'accéder sur Moruroa et Fangatofa. Vous avez vous-même dirigé une étude en 2006 consistant à des contrôles radiologiques sur l'île de Mangareva et les atolls de Turea et de Rao, mission que vous avez effectuée dans le cadre des travaux de la commission d'enquête mise en place à l'époque par l'Assemblée de Polynésie française et portant sur les conséquences pour les populations de la Polynésie française des essais nucléaires aériens, ceux qui ont été effectués entre 1966 et 1974.
Alors, donc on vient de voir avec ce grand panégyrique que vous êtes, Bruno Charréron, sans relâche sur les questions qu'elles soient liées au nucléaire militaire ou au nucléaire civil, et impact des mines d'uranium, des centrales nucléaires, des essais. Vous ne cessez de réclamer donc plus de vigilance. Alors, on a évoqué avec Didier Latorre les difficultés financières et techniques de la nouvelle approche industrielle du nucléaire, croyez-vous qu'elle puisse voir le jour ?
Alors d'abord, je voudrais dire que c'est pas moi en tant qu'individu qui mène ce travail, c'est toute une structure, donc vous l'avez cité, la CRIRAD, Commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité, qui est une association à but non lucratif qui est née de la catastrophe de Tchernobyl et de la désinformation, du manque de protection des citoyens en 1986. Donc notre objet, c'est d'améliorer l'information et la protection du public par rapport à la radioactivité. Par rapport à votre question, est-ce que cette relance du nucléaire, cette approche qui est nouvelle sans être vraiment nouvelle, est-ce qu'elle va voir le jour ? Ça, peut-être. En tout cas, on voit bien que en France, de très nombreuses forces à la fois politiques, industrielles, souhaitent que la France continue dans la voie du nucléaire et peut-être même l'amplifie. Le problème, c'est que toutes les difficultés auxquelles le nucléaire fait face ne sont pas résolues. On peut presque dire qu'aucune n'est résolue. Parmi ces difficultés, il y a bien sûr la question des déchets radioactifs. Et je pense qu'il est honnête de dire que pratiquement à toutes les étapes du processus qui conduit à la production d'électricité nucléaire, il y a production de déchets radioactifs dont on ne sait pas quoi faire pour une très grande part d'entre eux. Dès les mines d'uranium, il y a production de déchets radioactifs qui, même en France, ne sont pas confinés aujourd'hui. La deuxième étape, c'est l'arrivée de l'uranium à Malvézy, vous l'avez dit tout à l'heure, près de Narbonne. Pareil, à Malvézy, aujourd'hui, il y a 700 000 mètres cubes de déchets radioactifs solides et liquides dont l'industriel Orano ne sait pas vraiment quoi faire à long terme. Pour une partie de ces déchets, il n'y a pas de solution technique connue pour les stocker à long terme, et c'est vrai.
Bon,
pour,
mais ça, on aura l'occasion, on aura bien sûr l'occasion d'en rediscuter quand on évoquera les problèmes de Bure. La gestion des déchets est un vrai problème, et l'a toujours été dans le cadre du nucléaire. J'aimerais qu'on reste aujourd'hui sur ce qui est un peu l'actualité, c'est-à-dire cette relance. Donc Didier a expliqué en quoi elle était déjà extrêmement elle allait prendre un temps qui finalement n'allait pas nous être très favorable, notamment par rapport au réchauffement. Et je crois que c'est à ce sujet qu'on doit s'interroger. Est-ce que cette filière nucléaire ou cette relance nucléaire qu'on nous propose peut être demain une solution au réchauffement climatique ?
Alors en tout cas, elle pose, vous l'avez dit, beaucoup de problèmes. D'abord, elle va arriver trop tard. Le réchauffement climatique appelle des solutions extrêmement rapides. Et là, la mise en place de nouveaux réacteurs nucléaires, on parle à échéance de probablement la fin des années 2030. Et encore, si les projets en cours, par exemple les EPR2, arrivent à voir le jour dans ces délais, ce qui est loin d'être garanti. Autre problème du nucléaire, c'est qu'il consomme énormément d'eau.
Attendez, avant de passer à l'eau, qui est un vrai problème, et je vais vous laisser bien sûr en parler longuement, mais la mise en œuvre d'un EPR supplémentaire, finalement, ne résout pas les problèmes du CO2. Il répond simplement à une production d'électricité de combien à peu près ?
Alors, bon, un réacteur EPR, c'est un peu plus... S'il fonctionne, c'est un peu plus de 1600 mégawatts. Mais là où ça ne résout pas les problèmes de CO2, c'est que tous les moyens financiers qui sont mis pour tenter de développer puis de construire des réacteurs nucléaires, tous ces moyens seraient beaucoup plus efficaces pour réduire la production de CO2 s'ils étaient injectés dans des solutions d'économie d'énergie ou de production d'électricité qui sont beaucoup plus faciles et rapides à mettre en œuvre. C'est d'abord sur ce plan-là que ces projets de construction de réacteurs nucléaires à très long terme ne vont pas dans le bon sens par rapport à l'urgence à réduire les émissions de gaz carbonique en particulier.
Très bien. Alors, vous vouliez nous parler également du problème de l'eau ?
Oui, parce que évidemment, quand on fait face au problème du dérèglement climatique, il y a tout de suite aussi le problème de la raréfaction à moyen terme, des ressources en eau, toute l'inquiétude sur les ressources en eau. Et ce qu'il faut rappeler simplement, c'est que l'énergie nucléaire a un impact négatif sur l'eau, à la fois du fait de la pollution, les mines d'uranium polluent les ressources en eau. Et puis, toutes les étapes du nucléaire ont un impact de pollution sur les ressources en eau. On a montré, par exemple, qu'on retrouvait du tritium rejeté par les centrales nucléaires dans l'eau du robinet pour des millions de personnes en France. Donc, il y a un impact en termes de diffusion de substances radioactives et ou parfois chimiques dans les ressources en eau. Et puis, il y a une consommation d'eau qui est tout à fait notable. Les centrales nucléaires ont besoin d'énormément d'eau pour, vous le savez bien sûr, pour être refroidies. Et il y a parfois, justement, pas assez d'eau pour garantir leur refroidissement, ce qui implique la baisse de production, voire l'arrêt de certaines centrales.
L'année dernière, on a été obligé de le faire.
Par exemple. Et donc, évidemment, quand on réfléchit sur le long terme, une industrie qui a besoin d'autant d'eau pour refroidir ses réacteurs, ça ne correspond pas à la logique de ce qui devrait être développé pour faire face à tous les enjeux du changement climatique.
D'autant que cette eau va être encore plus chaude.
Et en plus, il y a évidemment, puisque cette eau sert à refroidir les installations, non seulement il y a une perte d'eau par son évaporation pour certains types de refroidissement, et en plus, il y a une consommation et un réchauffement de l'eau. C'est ce qui conduit, vous l'avez dit, c'est ce qui a conduit à l'arrêt d'un certain nombre de réacteurs, en particulier dans la vallée du Rhône, à cause de ces problèmes de réchauffement. Du coup, on voit bien que là, il y a quelque chose qui n'est pas très cohérent de vouloir absolument développer et installer, par exemple, des EPR2 dans la vallée du Rhône en amont de Lyon, avec ces problèmes de réchauffement, de risque de manque d'eau, et puis en plus, sans parler évidemment des conséquences en cas d'accident grave, ce sont des solutions qui méritent vraiment d'être mûrement réfléchies.
Alors, je vais revenir avec vous aussi sur un point qui a été souvent soulevé, bien sûr, à chaque fois qu'on parlait des problèmes du nucléaire. Les décisions continuent, bien sûr, à être prises sans réelle concertation, sans débat public, ça, c'est pas nouveau. Et pourtant, il avait été promis il y a 2 ans, lors de la fusion entre l'ARSN et l'ASN, que la transparence serait de mise. Alors, quelle est la réalité ? Vous vous y confrontez tous les jours. On a vu cette audition aussi à l'Assemblée nationale. Finalement, est-ce que vous pensez que la promesse est tenue ?
En pratique, non. Je veux dire, le fait qu'il y ait une fusion entre l'IRSN et l'ASN sous forme d'ASNR, ça ne va pas, ça ne s'est pas accompagné d'une amélioration de la transparence, parce que il y a une transparence de façade, c'est-à-dire qu'il y a des informations qui sont partagées sur des sites internet, par exemple, mais la vraie transparence, ce serait qu'il puisse y avoir des expertises indépendantes qui permettent à des scientifiques indépendants d'aller vérifier ce qui se passe dans les installations. Et ça, on a vraiment beaucoup de mal. Par exemple, la CRIRAD participe à la commission d'information sur le site du Tricastin, la CLIGET, et nous n'avons pas réussi, en tant qu'association qui participe, à obtenir qu'il puisse y avoir des experts spécialistes de la métallurgie qui puissent venir expertiser et donner un avis complètement indépendant sur la question du vieillissement des cuves des réacteurs nucléaires dans le cadre des réflexions sur la prolongation au-delà de 40 ans, voire même plus, des réacteurs nucléaires.
Donc, alors, je suppose
il ne peut pas
que...
y avoir de transparence s'il n'y a pas de contre-expertise.
D'accord. Et je suppose qu'au niveau local, enfin là, je m'adresse plutôt à Didier, je suppose qu'au niveau local, c'est encore plus difficile d'obtenir de l'information qu'au niveau de la CRIRAD.
Si on prend le cas de l'usine de Malvézy, par exemple, c'est tout à fait le même silence, les informations sont toujours données au compte-goutte. Quand il y a un problème, il n'y a rien à déclarer, tout s'est bien passé. Oui, c'est, il n'y a pas de différence quoi, hein, avec l'information au niveau national. C'est la politique de Rano, de toute façon, de minimiser toutes les incidences, tous les accidents sont minimisés. Et voilà.
Et donc, vous avez besoin de la CRIRAD.
Ah bah oui, impérativement, oui.
Et alors, au niveau de la CRIRAD, Bruno Charéron, vous continuez, on sait que les budgets ont été, de nombreux budgets ont été racornis cette année, si je puis dire. Donc, est-ce que vous êtes, vous aussi, victime de ces économies?
Alors, nous, ce qui nous a le plus affecté en termes de perte des ressources financières, ça a été la disparition d'une convention pluriannuelle d'objectifs avec la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes. Ça fait plusieurs années. Donc, il a fallu réduire la masse salariale. Il y a eu à la CRIRAD un certain nombre de licenciements. Et là, la situation se redresse petit à petit, sachant que l'essentiel des ressources dont dispose la CRIRAD, ça vient des citoyens, hein, des cotisations, des dons. On a à peu près 4 000 à 5 000 adhérents, des citoyens, qui donnent une adhésion à 45 euros et plus, des dons qui permettent à la structure salariée de la CRIRAD, à son laboratoire, à son équipe, de travailler. Mais bien sûr, nous ne sommes qu'une toute petite goutte d'eau dans l'océan de tout ce qu'il faudrait faire. Mais bon, c'est déjà important d'arriver à pérenniser cette activité.
Alors, nous allons arriver malheureusement à la fin de cette émission. Ça va passer très vite. Hein. Et bien sûr, je vais garder mes questions sur les déchets. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Sur les petits réacteurs également, puisque c'est quelque chose dont on parle beaucoup dans la presse et on aura besoin de savoir si c'est quelque chose qui, oui ou non, peut voir le jour. Alors, merci Bruno Charéron. Je rappelle que vous viendrez parler de votre ouvrage le 10 février à 11h45 à la Faculté des Sciences, que vous le dédicacerez le même jour à 19h à la librairie Au Grain des Mots. Et donc, bien sûr, nos auditeurs pourront échanger avec vous à cette occasion. Didier Latorre, je reviens vers vous puisque c'est à Arrêt du nucléaire 34 héros que nous devons cet événement. L'invitation de Bruno Charéron. Et je rappelle que le collectif Arrêt du nucléaire est membre de la coordination nationale antinucléaire et regroupe des groupes locaux ou régionaux qui agissent pour l'arrêt immédiat ou dans un bref délai du nucléaire. Alors, vous nous en rappellerez les grands combats nationaux plus tard. Merci à vous. Bon week-end à tous et à toutes. Et je rappelle que la semaine prochaine, on parlera de la géothermie et de la place importante qu'elle tient dans le bouquet énergétique montpelliérain.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur Divergence FM.